Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Trois films, trois chroniqueurs. Les films sont Le Deuxième Acte, Les Trois Fantastiques et Un Petit Truc en Plus. Les trois chroniqueurs sont Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Midiodi. Bonjour à vous trois.
Bonjour, bonjour Christophe Maury.
Le deuxième acte, c'est le nouveau Quentin Dupieux avec Léa Seydoux, Louis Garrel et Vincent Lindon. C'est un film insolent sur l'entre-soi du monde du cinéma. C'était gonflé de faire l'ouverture du Festival de Cannes avec ça. C'est truculent, malin, intelligent et drôle. Franchement drôle. On écoute la bande-annonce.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume.
Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
La musique est parfaite derrière. C'est vraiment, tout est là. Dominique.
Oui, alors, Quentin Dupieux, qui nous avait déjà gâté avec Dali il n'y a pas si longtemps,
oui.
Il continue, il n'arrête pas. C'est deux ou trois films par an, maintenant. Voilà, il passe le cinéma à la moulinette, à sa manière, hein, en posant des acteurs d'un film réalisé par une intelligence artificielle. C'est très important, parce que le metteur en scène qui voit, il est virtuel. Il est sur un écran, c'est peut-être un robot d'ailleurs qui leur donne des conseils. Donc il n'y a plus de réalisateur. Il démolit complètement le cinéma. Quoi. Ça, c'est intéressant. Mais en plus, surtout, il sème la confusion entre la réalité et la fiction. Qu'est-ce qui est joué? Qu'est-ce qui est vécu? On ne le sait jamais tout à fait. On voit des personnages qui avancent avec beaucoup de travelling arrière jusqu'au dernier qui est assez long.
Et... Ah, le plus long de l'histoire du cinéma,
ah oui, c'est sans doute le plus long. Ouais, ouais. Et voilà, qu'est-ce qui est vécu?
On sent qu'il se lance des défis comme ça, Dupieux.
Oui, alors il se moque du cinéma et en même temps il le remet en question d'une façon pas inintéressante d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Une perception, une certitude ou une illusion? C'est la question du film, au fond, qui est absurde et en même temps assez pernicieux. Enfin, on sourit un peu et on sait s'embarquer dans cette galère cinéphilique qui bénéficie d'acteurs de choix, on l'a dit, Lindon, Garrel, Léa Seydoux et Raphaël Quenard, qu'on n'arrête pas de voir au cinéma en ce moment. Voilà, on ne sait plus très bien où on en est, sinon dans le café-resto, deuxième acte, et puis cette fin symbolique avec un interminable travelling arrière. Alors, est-ce que c'est le cinéma ou la réalité qui s'achève? C'est simplement le dernier Quentin Dupieux, quoi.
Du joli chute, Marie-Noël.
Oui, c'est vraiment une variation très, très astucieuse et bizarre, comme les Dupieux, et très personnelle autour de la question que posait déjà Renoir dans Le Carrosse d'Or. Où finit le spectacle? Où commence la vie? Où finit le cinéma, où commence la société? Et on voit d'abord, à travers les acteurs, il y a deux couples d'acteurs qui se succèdent, et on voit d'abord comme la société imprègne le cinéma, le duo Louis Garrel et Raphaël Quenard est très très drôle autour du politiquement correct. C'est franchement assez hilarant. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Non, ça tu peux pas le dire. Et puis n'oublie pas que et toutes les gaffes, Raphaël Quenard les fait, qu'il faut pas faire, et Louis Garrel essaie de les effacer en disant mais attends, ça tourne là, on nous voit. Donc là, ce premier duo est très drôle. Et puis ensuite, il y a Vincent Lindon et Léa Seydoux face à face, enfin côte à côte, mais père et fille en principe, et qui discutent en pro. Alors, du métier d'acteur, Lindon fatigué de toutes ces fadaises du cinéma, alors que le monde est en feu, prototype de l'acteur engagé qui a des consciences de sa responsabilité, etc. Puis qui se révèle un fichu ambitieux, borné, narcissique. Et elle, maladroite, mal assurée, mais qui en tient pour le métier d'acteur. Il faut faire son boulot, il faut faire son travail. Mais finalement, on aperçoit que c'est une petite marionnette paumée entre les mains de sa mère et de son agent. Et puis, ensuite, la réalité et la fiction se mélangent dans le restaurant où il y a des figurants, donc plus proche de la réalité. Et puis, se révèle toujours d'arrière-plan en arrière-plan, c'est ça. Un restaurant au milieu de nulle part, avec un patron serveur tremblant d'émotion de participer au cinéma. Puis on se recule encore, on prend chaque fois plus de profondeur de champ, et là on découvre en effet que ce film est fait par une intelligence artificielle, et que tout ça, c'est ces blabla d'acteurs et ces petits remous de la société, on n'en a rien à faire. Votre avis personnel n'est pas prise en compte, dit l'intelligence artificielle à chaque fois qu'on essaie de lui faire une remarque. Et le travelling final, les rails, c'est en effet une image, alors un peu longue, hein, un peu longuette. Franchement, il y a des défauts, il y a des longueurs, et tout se brouille parfois un peu. Mais enfin, ce rail de travelling perdu dans une forêt, c'est aussi, ça peut être un rail de chemin de fer, tout simplement, d'un chemin de fer abandonné. Voilà, la société. Fin du cinéma, oui. Mais c'est une image aussi de la fin du cinéma et la fin des relations humaines.
C'est aussi une métaphore assez forte. Oui. Bernard.
Oui, comme très souvent chez Quentin Dupieux, c'est sympathique. C'est d'ailleurs, plus il avance, astucieux, plus ça devient sympathique. C'est vrai, ingénieux. Et en même temps, on aurait du mal à trouver ça parfaitement abouti, quand même. C'est vrai que l'interprétation...
Il y a un côté très brouillon chez lui, dans tous ses films.
Oui, mais certes, mais Au Poste est plus drôle. Le Dain, à mon avis, est inférieur. Celui-là, on est presque face à un réel bon film. Mais il manque encore un petit quelque chose. L'interprétation est irréprochable, mes camarades l'ont dit. Il y a des dialogues qui vraiment n'engendrent pas la mélancolie. C'est vrai qu'on rit souvent. Et puis, ça fait preuve d'une plaisante audace, parce que ça pourfend avec une honnêteté pugnace les tabous d'une époque qui, à force de frilosité, lasse et agace. On ne peut pas dire du mal de la bisexualité, on ne peut surtout pas dire du mal des féministes, on ne peut pas avoir l'air d'avoir...
Ça fait du bien d'entendre ça.
Et surtout que c'est très rare dans le cinéma français, et ça, c'est plaisant. Et puis, c'est une critique affûtée de la vanité, de la duplicité et de la cupidité d'un milieu qui est en général protégé par le bouclier de la créativité. Et là, on les attaque, on les pousse dans les derniers retranchements, et ça aussi, c'est plutôt sympathique. Maintenant, à quoi sert ce suicide à répétition, à titre personnel, cet épilogue silencieux sur ces rails mystérieux, moi, ne m'a pas du tout convaincu. Est-ce qu'on les suit comme des bovins? Est-ce que c'est le bétail du rail? Je ne saurais pas le dire. Par ailleurs, à force d'utiliser ce procédé de Brecht, qui est le Verfremdungs effect, je vais faire mon cuistre, mais de mise à distance du spectateur, du public qu'il est en train de voir, eh ben, ça ruine toute chance d'intensité, voire de véracité de ce qu'on est en train de voir. On est trop mis à distance. Et puis l'histoire reste quand même bien fluette, hein. Quoi qu'on dise, et une fois de plus, le réalisateur semble se lasser un peu vite de son propos. Alors entre errance et exubérance, est-ce que derrière le non-sens, il n'y aurait pas aussi un peu d'inconsistance qui ferait des interférences ? Avant d'atteindre ici le brio de la comédie française et l'expressivité du TNP, le deuxième acte a donc du lin sur les planches.
Nous passons à trois fantastiques de Michael Dichter, avec Emmanuel Berco, Raphaël Quenard, encore, Diego Murga. On a trois enfants. C'est Max, Vivian et Tom. Ils ont 13 ans, ils sont inséparables. Et on vit vraiment la poésie de cette fin d'enfance, encore pure et toujours courageuse. Mais le grand frère de Max s'appelle Seb, il sort de prison, il fait basculer les trois garçons dans l'irréparable. De magouille en combine, le casting est impeccable pour cette sortie d'enfance douloureuse dans des Ardennes ruinées par la crise et la désindustrialisation. C'est une réussite, selon moi, pour ce premier long métrage maîtrisé jusqu'à la fin d'un véritable coup de poing. On écoute la bande-annonce.
C'est qui les trois fantastiques?
Bah, c'est nous trois.
Allez, accélère, vive, il arrive!
Wow!
Attendez-moi, là, c'est bon.
Oh, putain. Oh, comment il est chiant.
Ok, 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 ok.
Allez, mon Tommy.
Allez. Vas-y, Tommy.
Allez, c'est bon.
Allez, 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 allez.
Tom, tu sais ce qui me fait pédaler aussi vite? Je pense à ta mère. Cours, Tommy, cours!
Sam?
Oh, je merdais. Ce qu'il a?
Je pensais que t'en avais encore pour 6 mois.
T'es merdeuse, j'ai un service à te demander. J'ai laissé un sac dans la forêt, faudrait que je le récupère.
Arrête, Sam. J'ai envie que tu retournes en prison.
T'inquiète, c'est fini. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout.
Et tu comptes en faire quoi?
Hier soir, t'es allé où?
Où fais-toi, putain!
Tu veux finir comme ton frère, c'est ça?
Si je te trouve de l'argent, ils vont te laisser tranquille?
Il faut que tu me fasses confiance.
Qu'est-ce que t'as encore fait, Seb? Ça recommence là!
C'est qui le grand frère de qui? Il n'y a pas plus fort que la famille, frère.
Oui, ben, c'est moins un film sur l'après-adolescence, on s'y attend avec le titre, qui à mon avis n'est pas très bien adapté, qu'un constat de la misère sociale, vivier de la délinquance. C'est ce que nous dit le film. D'emblée, d'ailleurs, une mère passive et égoïste, un frère qui sort de prison, et puis ce petit personnage, magnifiquement joué par un certain Diego Murgia, qui est très émouvant, et l'environnement du héros est posé, sans issue, sans solution. Après, un sac de drogue à récupérer, et il entre déjà dans la délinquance, sur la pointe des pieds. Lui, il ne voudrait pas être un voyou, il jette le sac, mais... Bien sûr, le destin va le rattraper. C'est la démonstration d'un engrenage inéluctable, et c'est assez bien montré, c'est assez juste, c'est assez triste aussi, comment on peut mener un presque ancien enfant, vers la marginalité. Et c'est assez dur, parce que ça paraît d'ailleurs très insouciant, puis ça devient très vite très dur.
Et violent.
Voilà, mais le petit jeune est vraiment étonnant parce qu'il est victime et coupable, mais coupable involontairement, désabusé aussi. C'est triste et cruel constat social qui méritait, j'en crois, un autre titre. Mais enfin, voilà. Non, c'est plutôt réussi, oui.
Marinelle.
Oui, c'est très réussi parce qu'au départ, on voit en effet des enfants avec des rêves d'enfants, avec la pureté de l'enfance et de la débrouillardise. Ils ont un côté boy scout ensemble. Ils sont liés par l'amitié alors qu'ils grandissent dans des contextes très difficiles, surtout le petit Max, en effet, remarquable. Et on explore très bien sa vie familiale, cette mère... Je ne sais pas si elle est si égoïste que ça. Elle est désespérée et dépressive. Oui, parce qu'on le comprend après, quand son fils aîné revient de prison. Et le petit Max est très, très responsable et très affectueux. Et le film explore très bien, je trouve, cet emmêlement de l'affectivité familiale. Le frère, les deux frères s'adorent aussi. Et puis de quelque chose de crapoteux, qui est très pénible et contre lequel le petit Max lutte. Mais au départ, ce trio d'enfants est très attachant et il a à la fois la volonté d'agir et l'insouciance de son âge. Et puis tout s'assombrit. Et sombre va vers la violence. On voit cette perte de cet engrenage très bien montré par le scénario, un engrenage terrible vers la violence, le vol, l'immoralité, le crime. Ça m'a fait penser à Mystic River de Clint Eastwood, qui est un très beau film sur ce mystère du mal, parce que c'est ça, et c'est un beau film d'apprentissage, si on veut.
Merci.
D'apprentissage pour le spectateur, si Bernard. On veut penser un peu aux racines
du
de
mal.
La violence des très jeunes, des mineurs.
Une jolie histoire d'amitié tissée avec beaucoup de sensibilité et de doigté entre ces trois jeunes personnages. Une narration qui a du répondant apparemment, pour un premier film, ils savent raconter une histoire. Et ça, ce n'est pas si fréquent. Et vous avez d'ailleurs une montée dramatique dans la dernière partie qui suscite la sympathie. Parce que là, le soufflet monte, monte. D'ailleurs, ça retombe un petit peu. Et puis, la fiction excelle à montrer qu'il s'en faut de peu pour basculer. Et pour basculer dans le néant, dans l'horreur. Il y a une scène d'humiliation qui est, de ce point de vue-là, très éloquente. Alors, sur un sujet voisin, l'inspiration de Stephen King, en moins, Stand By Me avait davantage de délicatesse. Edmund, tiens, était plus plaisante. La fin déçoit. Je trouve qu'elle tombe à plat. On évite ici ni les écueils du sordide, ni celui du misérabilisme. Je suis d'accord avec Dominique. Le titre en hommage à une bande dessinée Marvel, Les Quatre Fantastiques, se trouve particulièrement mal choisi. C'est peu éloquent. Une question subsiste. L'enveloppe pleine d'argent donnée à Raphaël Quenard, eh bien, que devient-elle ? Ça, il y a quand même une ellipse là-dessus. Et la scène de recherche aquatique est captivante, mais totalement invraisemblable. En quelques secondes, bon, on ne va pas en dire trop, mais on n'y croit pas du tout. Un tel trio laisse néanmoins quelque peu sur sa faim. Et le public d'éprouver dès lors, avec Goethe ou pas, les souffrances du jeune Turner.
Voilà, je l'attendais. On achève avec un autre premier film. C'est un film qui s'appelle Un petit truc en plus, qui a déjà fait 2 millions de spectateurs.
3 millions
de spectateurs. C'est vraiment un événement. Pour échapper à la police, c'est un père et son fils sont en cavale. Ils se cachent dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Alors, c'est une formidable expérience humaine qui change les regards sur les trisomiques, entre autres, ces bourrés de bons sentiments, qui s'en plaindraient. On rit, non pas des Mongoliens, mais avec les Mongoliens. Et c'est ça qui rend le film très joyeux. Et c'est donc le premier long-métrage d'Artus. On écoute la bande-annonce.
On est en vacances ou on n'est pas en vacances ?
Tiens.
C'est pas grave, c'est pas grave, l'habitude.
Allez, on se casse. Allez.
Merde, il n'y avait plus la bagnole.
T'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles du nouveau?
Sylvain?
Ouais.
J'ai eu ses parents, il arrive.
Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi?
Je vous présente Sylvain, les copains.
Bon, on peut y aller, là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
Bon, on fait quoi, du coup? Fais comme eux, là. C'est trop, j'essaie de trouver, je vais trouver le juste milieu.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très, très, très proche, hein.
Frères et sœurs, jour et nuit.
Allez, va.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé, moi.
Bah, on voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein?
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic?
C'est moi, petite bite! Tu sais ce qu'ils font pris dans les douches?
Pardon?
Je sais que le passé, c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier.
Remonte!
Pourquoi ils nous regardent, les gens?
Oh les vamères!
On vous emmène!
Et ça fait clic! Clic, clic, pam, pam, pam! Ma chérie, t'es trop séduisante.
Ah, oh là là, oh putain Marie.
C'est parti droit dans sa gueule.
C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.
Mais au-delà de la comédie, je trouve qu'il y a une joie qui est merveilleuse dans ce film. Dominique.
Ben c'est le syndrome intouchable et hors norme qui ont été deux succès de cinéma et qui traitaient justement les handicaps et les handicapés avec le sourire. Alors là, enfin, les comédies italiennes ô combien réussies des années 60, hein, Rizzi et autres. Et là, Artus a repris ce schéma-là et ça lui a plutôt réussi. Le film est un gros succès. Il y a le sourire, il y a des situations comiques, mais il y a la solidarité et la compassion qui arrivent à voisiner ensemble. Et ça, c'est assez beau. Ce qui fait que le film a une dimension totalement différente. Deux petits voyous qui se trouvent embarqués avec des handicapés, et puis ils les découvrent, ils les aiment, ils se découvrent eux-mêmes. Et c'est ça qui est peut-être le plus beau dans le film. Alors c'est parfois drôle, il y a quelques gags qui sont assez réussis. Mais l'essentiel est ailleurs, voilà, dans cette troupe d'handicapés qui sont touchants, qui sont de véritables handicapés, hein, je crois, qui s'amusent, qui se défoulent, toujours souriants, toujours un peu ailleurs. Arthur. Titus, réalisateur, interprète, pour une fois, n'en fait pas trop. Clovis Cornillac joue le rôle du méchant, mais pas si méchant que ça, finalement. Et puis Amel Bent est la touche charme du film, elle a aussi beaucoup de charme. Voilà, finalement, c'est un film plus émouvant et drôlatique, plus profond, facilement rigolard, et c'est une réussite dans le cinéma français qui en compte si peu.
Marie-Noël.
Oui, c'est un vrai phénomène et on s'en réjouit. C'est un phénomène inattendu, et qui est en soi réjouissant. Le public adore ce film et c'est en effet une comédie grand public qui est tout à fait dans les codes du genre, avec des gags et parfois téléphonés, des situations, des notes sentimentales banal. Mais ce qui fait...
Les
ingrédients sont absolument...
Absolument, mais le cocktail est réussi.
Les ingrédients sont très banals, ordinaires. Absolument. Il n'a rien cherché. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'innovation, rien. Simplement, c'est un match absolument ludique entre des malfrats qui cherchent à utiliser les handicapés comme planque et qui finalement sont submergés par alors qu'ils sont challengés, ils sont défiés par ceux qu'ils prétendaient utiliser et manipuler vaguement. Ça, c'est très réussi parce que c'est fait, c'est très naturel. C'est une insertion humaine imprévisible, à l'inverse de l'insertion sociale qu'on prône en essayant de mettre les handicapés aux normes de la société ordinaire, dite normale. Et là, ce sont les gens ordinaires, dits normaux, qui sont inclus et insérés dans le monde des handicapés et qui y trouvent des merveilles, des trésors et des joies. Il y a une scène formidable, je voudrais quand même la citer, si même si merveilleuse, quand le malfrat qui essaie de se faire passer pour un handicapé est démasqué par un jeune trisomique qui lui dit t'es pas un vrai toi, t'es pas un vrai, on n'y croit pas, tu joues très mal, et il lui explique, et ça c'est formidable. Alors l'autre lui dit mais en fait je suis un flic policier, c'est pas vrai, t'es pas un vrai policier non plus, je peux te dire t'es pas, il le démasque complètement,
il tient vraiment la vérité.
Oui, c'est formidable, et ils sont d'un naturel et d'un enjouement extraordinaire.
Bernard. Alors c'est vrai que c'est très sympathique. C'est alimenté par une constante vitalité, une prégnante humanité, ce qui fait que le film a beaucoup...
Et il joue très bien.
Oui, ça c'est vrai, et le film a beaucoup de personnalité, et les relations tissées entre les différents personnages, alors les relations hommes-femmes, les relations vacanciers-éducateurs, les relations même père-fils, grâce à une indéniable intelligence du cœur, eh bien ont une certaine profondeur.
Oui. Sur une consistance.
Pas totalement délébile, volatile, non, vraiment. Les chocs faciaux répétés au détriment du même personnage malchanceux constituent un gag audacieux propre à susciter des rires copieux. C'est vrai que ce gag itératif, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, fait rire. Et le personnage de Thury Ferrer de Nicolas Sarkozy, grâce à une union réussie entre vocabulaire choisi et franc-parler épanoui, n'engendre pas la mélancolie. Il est interprété par Stanislas Carmon, qui mérite bien qu'on le cite. Maintenant, ça rappelle quand même beaucoup un film de Philippe de Broca qui s'appelle Psy, où c'était des gens un peu zinzin réunis par Patrick Devers, et vous aviez des malfrats qui arrivaient parmi eux, avec notamment Michel Creton, c'est-à-dire avec Patrick Devers et Annie Dupéret. Les situations n'en restent pas moins un petit peu pauvres. Le match de football, les courses collectives, la préparation du déjeuner, et puis Clovis Cornillac en père d'Artus. On aurait bien vu son frère aîné, mais en père, on n'y croit pas. La séquence d'excursion ressemble étrangement à celle de vol au-dessus d'un nid de coucou sur un lac. Et à la fin, la chanson c'est It Ain't So and So Joe, interprété par Murrayette, qui était l'un de ses tubes avant Corporation Corridor et One Night in Bangkok. C'est une scène qui essaye d'être un peu un tire-larme. On montre aussi beaucoup pour ne pas avoir à dire. Et là, il y a un achat final qui est totalement invraisemblable à la fin. Je dirais pour conclure...
Mais c'est pas grave, ça, au contraire, ouais, c'est une espèce d'apothéose très joyeuse.
On va quand même, tout à la fin. En s'efforçant de transfigurer la différence, Artus devient, d'une certaine manière, l'esthète de trucs.
Je veux aussi dire une chose, pour les handicapés, il y a une émission à la télévision qui s'appelle « Les rencontres du papotin ». Le papotin, c'est le journal des handicapés, et chaque semaine, ils reçoivent une vedette. Ils ont reçu Macron, ils ont reçu Lindon, etc.
Bon, eh bien, merci à tous les trois. Merci Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Bord et Bernard Milioni. Nous avons présenté aujourd'hui le deuxième acte, Les Trois Fantastiques, et un petit truc en plus. Merci Cédric Cobat pour la réalisation. Merci François Dieudonné, Philippe Alpeche, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous fêterons les Didier, et surtout, avec Jean-François Rode, je recevrai Timothy Radcliffe de passage à Paris, ce qui est un immense événement. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.